Tu y as pêché baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous clôturons la première saison de cette série en recevant une chercheuse de la matière brune et des habitants multiples qui peuplent ce que nous nommons simplement le sol. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs?
Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Je m'appelle Anne Blanchard, je suis présidente de Sol Éco et donc j'ai 32 ans. Donc j'ai réalisé effectivement une thèse à l'Université de Lorraine sur le sujet des sols et notamment de comment on pouvait prendre en compte ces sols et cette troisième dimension dans l'aménagement du territoire, donc principalement les sols en milieu urbain. Et suite à ça, j'ai créé mon entreprise maintenant, il y a presque 4 ans, qui s'appelle Sol Éco. Et donc nous sommes basés sur Nancy et au quotidien, on intervient pour réaliser des diagnostics de qualité des sols, donc tout ce qui est fertilité des sols, mais aussi inventaire de biodiversité des sols, pour essayer d'améliorer la connaissance que l'on peut avoir sur ces systèmes, notamment quand on est en milieu urbain, et pouvoir accompagner les collectivités territoriales ou les architectes, urbanistes, paysagistes à développer des projets d'aménagement qui soient le plus compatibles avec le respect de cette ressource non renouvelable. Depuis mon enfance, j'ai été sensibilisée aux enjeux de protection de l'environnement par le travail de mon papa qui travaille aussi sur les sols. Je me suis dit que c'était un écosystème à part entière qui était trop peu connu, qui était souvent vu comme une surface. Et j'ai encore pu plus m'en rendre compte quand j'ai réalisé mon master en urbanisme, où effectivement j'ai pu travailler ensuite dans un cabinet d'architecte paysagiste et où le sol était principalement vu, notamment en ville, comme une surface foncière sur laquelle on venait construire des bâtiments ou des infrastructures. Et donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire parce qu'on était en train de détruire à la fois des sols qui pouvaient être fonctionnels, qui pouvaient répondre à des enjeux de transition écologique, et puis on était surtout en train de détruire des habitats pour de multiples organismes qui vivent dans ces sols. Et donc voilà, mon aspect aussi un peu protection de l'environnement est ressorti et donc je me suis dit qu'il pouvait y avoir une solution pour combiner à la fois le développement urbain pour la viabilité des sociétés humaines, mais aussi le respect de l'environnement dans lequel on peut vivre. Plutôt toujours en lien avec la nature, donc très consommatrice de randonnée ou de moments à la plage en pignon, une amatrice on va dire de piano.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots, un goût, une odeur, une couleur, une texture?
Alors pour moi, le vivant, c'est ce qui est primordial sur cette planète. Je dirais aussi le mot diversité, parce qu'il y a diverses espèces, il y a diverses essences végétales, effectivement, tout ça fait partie du monde vivant. Et puis un mot qui va aussi en lien, c'est peut-être le mot écosystémique ou systémique, en disant qu'effectivement, ce ne sont pas juste des choses à ranger ou des espèces à ranger dans des cases, mais que tout ça a effectivement un lien et qu'on fait partie de ce cercle et que du coup l'homme ou en tout cas l'humain au sens large a aussi son rôle à jouer dans cette protection de l'environnement et dans cette protection du vivant. Tirer la couleur marron tout simplement pour faire aussi référence au sol. C'est vrai qu'on associe souvent la couleur vert au vivant. Le vert représente plutôt ce qui se trouve à la surface des sols et si j'essaye de faire un focus sur les sols et la biodiversité des sols, L'odeur, je mettrai celle de la forêt, tout simplement pour rester aussi sur ce premier horizon de sol très très riche en matière organique quand on se promène en forêt et qu'il y a une odeur très particulière. Et du coup, il y a de tirer fortement le goût du champignon qu'on peut effectivement retrouver en forêt. Au niveau du son, même si c'est un son qui n'est pas aujourd'hui totalement connu, j'aime assez le bruit du ver de terre dans le sol. C'est vrai que des chercheurs se sont rendus compte il y a quelques années qu'il y avait tout de même des fréquences sonores qui étaient émises par les vers de terre quand ils creusent leur galerie dans les sols. Et c'est vrai que même si on tend l'oreille sur un lombric compost, on peut effectivement entendre ce bruit. La texture, alors je ne prendrai pas une texture qu'on peut retrouver dans l'alimentation, mais je vais plutôt parler de la texture qu'on arrive à mobiliser quand on travaille en science du sol, donc pour déterminer si un sol est effectivement plutôt sableux ou argileux, et j'emploierai la texture qui est finalement une texture assez équilibrée, qui est généralement la meilleure, ou en tout cas la plus idéale pour les développements de plantations. A brotherhood
of man. Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Toutes les personnes qui ont pu créer avec moi Soleco et qui travaillent aujourd'hui au quotidien chez Soleco, le vivant, c'est l'aspect principal et c'est la caractéristique primordiale qui est mise en avant dans nos projets. Nos projets sont faits à la fois pour avoir une meilleure connaissance des sols et de la biodiversité des sols qui vivent effectivement dans ces systèmes. Donc on est clairement sur une compréhension du vivant et des mécanismes et du fonctionnement de ce vivant. Mais on est aussi et surtout sur une logique de préservation et de protection. On essaye effectivement de développer des projets qui puissent prendre en compte ce vivant et surtout protéger ce vivant. Je mettrai sous deux aspects en fait cette prise en compte du vivant. On essaye d'amener de la connaissance parce qu'on se rend compte aujourd'hui, notamment en milieu urbain, qu'on a très peu de connaissances sur la biodiversité qui vit dans les sols en ville. Globalement, on a un manque de connaissances au niveau national sur la biodiversité des sols. C'est vrai que les sols en milieu urbain encore plus. Un aspect protection et préservation à la fois des organismes mais aussi des fonctions qu'ils sont capables de fournir, et cette vision du vivant, nous, elle passe aussi par une vision fonctionnelle. C'est essayer de faire comprendre que ces organismes ne sont pas là juste pour être là, mais qu'ils ont vraiment un rôle à jouer dans le fonctionnement de l'écosystème et qu'ils ont un rôle à jouer dans les réponses qu'ils peuvent effectivement fournir ensuite aux enjeux de transition écologique. Sans les sols, sans la biodiversité des sols, on aurait aujourd'hui du mal à stocker du carbone pour réguler le changement climatique. On aurait du mal à infiltrer de l'eau pour réguler les inondations. Et on aurait effectivement du mal à avoir des sols fertiles qui puissent répondre à l'enjeu de production de biomasse à vocation alimentaire. Donc cette vision du vivant, voilà, nous, elle est primordiale dans nos projets. Et c'est vrai qu'elle passe aussi par une vision un peu systémique et fonctionnelle des organismes qui peuvent vivre dans ces sols. Pour moi, systémique renvoie effectivement au fait qu'il y ait des liens entre chaque organisme qui va être étudié ou entre chaque sol que l'on va pouvoir étudier. Ce ne sont pas des compartiments à prendre de manière cloisonnée, mais il y a vraiment des liens, notamment si on prend pour exemple la macrofaune. Ce sont les plus gros organismes qu'on va retrouver dans les sols. Donc généralement, l'animal emblématique de la macrofaune, c'est le ver de terre, mais on peut aussi trouver des araignées ou des cloportes. Et en fait, on se rend compte que chaque organisme a un rôle bien particulier. Et dans la macrofaune, on va retrouver notamment quatre groupes fonctionnels. Donc on va avoir les décomposeurs qui vont effectivement pouvoir se nourrir de matières organiques déposées au sol qui vont pouvoir dégrader. On va avoir aussi des ingénieurs, par exemple, tels que les vers de terre, qui vont pouvoir creuser des galeries dans le sol et participer à la structure du sol. Et puis on va aussi avoir, comme les araignées, par exemple, des prédateurs qui vont pouvoir effectivement réguler les populations. Et donc ça, c'est essentiel dans le sol de retrouver ces quatre groupes fonctionnels, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et on se rend compte que si un groupe fonctionnel n'est pas représenté, on a effectivement un déséquilibre dans le fonctionnement du sol. Donc des fois, il vaut mieux avoir moins d'organismes, mais qui représentent effectivement ces quatre groupes fonctionnels, plutôt que d'avoir beaucoup d'organismes qui représentent effectivement un seul groupe fonctionnel et qui, du coup, joueront la même fonction dans le sol. On dit souvent que le sol est une ressource non renouvelable parce qu'en fait, on se rend compte que le sol met énormément d'années à pouvoir se former, mais qu'il suffit d'un seul paramètre modifié, soit le pH, soit la quantité de carbone, soit effectivement la disparition d'une communauté parce qu'on a trop compacté le sol ou parce qu'on n'a plus de réserve de nourriture parce qu'on a un sol qui est nu. Et bien tout ça, en quelques jours, quelques semaines, ça peut effectivement entraîner un déséquilibre qui fait qu'on arrive sur des sols qui sont non fonctionnels et donc on aura effectivement perdu énormément de temps parce qu'on aura un sol qui aura mis énormément de temps à se développer, à se construire et on aura réussi à le dégrader en quelques minutes.
Qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je pense qu'il peut apporter, c'est déjà des éléments de connaissance, parce qu'on a cette particularité effectivement de pouvoir étudier les différents systèmes ou écosystèmes dans lesquels nous évoluons. Mais c'est surtout et aussi un rôle de protection du vivant, de l'environnement au sens large, en se rendant compte que si on dégrade un paramètre, on va avoir effectivement des répercussions sur énormément d'équilibres qui avaient pu être atteints sur du long terme.
On va passer à la question d'actu. La semaine précédente, l'épisode spécial Feuilles de chou retraçait les quelques lignes du plan prévention à la sécheresse, régulièrement mis à jour avec les alertes données sur le territoire. À aucun moment dans ce document n'est mentionné le sol et le rôle fondamental qu'il joue pour la biodiversité et dans le cycle de l'eau. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Effectivement très paradoxal de parler d'un plan de prévention sur la thématique sécheresse et de ne pas considérer les sols, notamment au regard, on le sait, et je pense que c'est connu de tous, du rôle très important que peuvent jouer les sols dans la régulation des inondations, ne serait-ce que par leur capacité effectivement à infiltrer de l'eau ou leur capacité à pouvoir effectivement être un habitat ou un support pour les plantations et les diverses essences végétales qui, elles aussi, vont pouvoir jouer un rôle très important sur l'infiltration de l'eau dans le sol. J'ai envie de faire le parallèle avec ce qui se fait actuellement dans l'aménagement du territoire où le sol est considéré uniquement comme une surface et finalement on oublie souvent sa troisième dimension, son épaisseur et son aspect volume. Et ce qui fait qu'on oublie souvent le très important rôle que peuvent jouer ces systèmes, alors qu'ils soient forestiers, agricoles, naturels ou urbains, face à ces enjeux de réchauffement climatique ou de changement climatique, de régulation des inondations, mais aussi de stockage du carbone, puisque on le sait, le sol est un très grand réservoir de carbone et qui a, à mon avis, un rôle très important à jouer dans la régulation du climat, ne serait-ce qu'un point de vue climat local.
On va passer à l'agenda. Quel rendez-vous ou référence voudrais-tu nous communiquer ?
I see trees of green. En rendez-vous marquant, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir une journée mondiale consacrée à la question des sols. Donc cette fois-ci, elle se tiendra le 5 décembre 2023. Chaque année, on a un événement qui est organisé autour de cette journée mondiale des sols qui est portée par l'Association française de l'étude des sols en partenariat avec le groupement d'intérêt scientifique des sols et le réseau, le RMT Sol et Territoire. Et cette année, le thème sera les sols et l'eau. Donc, on parlait tout à l'heure, effectivement, du plan de prévention sécheresse. Eh bien, rendez-vous le 5 décembre 2023 pour pouvoir discuter de la journée mondiale des sols sous l'angle de l'eau. Donc sur les références, celle qui peut être citée, c'est la fresque des sols, qui a été créée par l'Association française de l'étude des sols en partenariat avec l'ADEME et de nombreux chercheurs qui y ont porté contribution. C'est sur le même principe que la fresque du climat, qui est généralement la fresque la plus connue, mais aussi la fresque de la biodiversité. On retrouve effectivement beaucoup de cartes qui sont liées sur la thématique des sols et de la biodiversité des sols, et qui permettent aux professionnels, mais aussi aux citoyens au sens large, et aux plus jeunes comme aux moins jeunes, de pouvoir se sensibiliser et en apprendre plus sur les sols, le fonctionnement des sols et les services que peuvent effectivement rendre les sols. C'est un jeu qui va sortir dans les toutes prochaines semaines. N'hésitez pas à aller trouver des dates sur des événements qui se passent près de chez vous et effectivement à vous sensibiliser ensuite toujours un peu plus à ce merveilleux monde qui se cache sous nos pieds. Merci de pouvoir laisser un peu plus d'espace à cette question des sols qui a été abordée sur les dernières émissions, et c'est agréable de voir effectivement comment on peut s'emparer du sujet et sensibiliser davantage de personnes à la meilleure connaissance et à la meilleure préservation des sols et de leur biodiversité.
Tu y as pêché où ?
Cet épisode à décortiquer les horizons sous nos pieds prend fin. La semaine prochaine, nous inaugurons la série Clé des champs en allant découvrir comment ces plantes cultivées en pays insulaires peuvent nous éclairer sur la culture de demain.
Tremble être noyée.